C'est un changement d'habitude majeur qui attend les habitants d'Aglopolis au 1er janvier 2023 et ça valait bien une chose commune. Fini de descendre au pied de son immeuble les bras chargés ou de prendre sa voiture, le coffre rempli pour se rendre en point de dépôt ou en déchetterie, les poubelles jaunes arrivent enfin sur l'agglomération blésoise avec un ramassage à domicile tous les 15 jours. Une petite révolution qui nécessite de la communication, des ajustements sans doute, et sans doute beaucoup de pédagogie car changer des habitudes, cela demande un peu de temps. Combien ça coûte? Combien ça rapporte? Quels sont les avantages et les inconvénients d'un nouveau système? Yann Lafont, vice-président en charge de la question des déchets, est mon invité pour évoquer le sujet des poubelles jaunes et de la nouvelle collecte des déchets. Bonjour Yann.
Bonjour Thomas, merci de me recevoir sur Studio ZEF.
Je caricature un petit peu en parlant des poubelles jaunes, hein, mais c'est donc un symbole et vraiment la porte d'entrée qui permet aux habitants de l'agglomération de se positionner et de comprendre qu'il va y avoir un changement majeur dans leurs habitudes de tri et de collecte.
Oui, alors c'est pas du tout caricatural d'évoquer un bac jaune, puisque même si le corps du futur bac qui vous sera distribué à domicile est gris, le couvercle de ce futur bac est bien jaune.
Oui, donc quel a été le délai de mise en place depuis les premières réflexions au sein d'Aglopolis jusqu'à ce départ effectif, ce déploiement effectif des nouvelles consignes de tri au 1er janvier prochain?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette décision de passer donc en collecte en porte-à-porte de nos déchets recyclables répond à une obligation réglementaire qui incombe à la collectivité. Et c'est celle de gérer ce qu'on appelle les extensions des consignes de tri. On pourra peut-être y revenir plus tard et expliciter ce terme. Ouais. Enfin, il s'agit pour la collectivité de collecter l'ensemble des emballages ménagers, plastiques et métalliques. Et donc, pour pouvoir répondre à cette obligation réglementaire, les élus de l'agglomération se sont interrogés sur le meilleur mode de collecte, qui était jusqu'à présent donc celui du point d'apport volontaire. Ouais. Et donc cette décision, elle a été prise très en amont pour être prêt au 1er janvier 2023. Et donc c'est à peu près un an et demi avant la mise en œuvre opérationnelle qu'il faut que la décision politique soit prise.
Vendôme et Romorantin étaient déjà passés depuis longtemps au bac jaune. Moi, j'ai habité longtemps Vendôme. Ça fait plusieurs années que c'était déjà déployé. Pourquoi seulement maintenant à Blois? Qu'est-ce qui différencie ces décisions-là d'une communauté d'agglomération à une autre dans un même département?
Ben comme je le disais, c'est l'obligation de respecter ouais. cette nouvelle loi sur la gestion des extensions de consignes de tri qui nous a amené à nous réinterroger sur notre mode de collecte. Donc jusqu'à présent, comme je le disais, on passait par des points d'apport volontaire. Il y en a à peu près 350 sur l'ensemble du territoire, ce qui donnait a priori satisfaction à l'ensemble des habitants, même si malheureusement une proportion importante des habitants ne vont même pas jusqu'au point d'apport volontaire le plus proche de leur domicile et mettent encore leurs déchets recyclables dans leur poubelle grise, ce qui est très dommage puisque ça part directement à l'incinération et que donc c'est du matériel qui échappe aux filières de recyclage. Et donc voilà, la décision des élus il y a quelques années avait été d'opter pour le point d'apport volontaire, l'apport volontaire. Et puis donc à l'occasion de cette obligation réglementaire, on a réinterrogé ce mode de collecte, on a fait travailler un cabinet d'études sur la question et on a estimé que pour favoriser et encourager le geste de tri et puis surtout supporter le volume supplémentaire qui serait généré par cette extension des consignes de tri, c'est-à-dire à peu près 30% d'augmentation, il était plus simple et plus économique surtout, parce qu'on est soucieux de la bonne gestion des deniers publics, de passer en collecte en porte-à-porte.
C'est-à-dire que vous estimez qu'il y avait 30% de déchets recyclables qui partaient encore là en 2022 dans les déchets ménagers, c'est ça?
Alors, c'est pas tout à fait, ça. L'augmentation de 30%, c'est l'augmentation générée par le fait que dès le 1er janvier, vous pourrez également envoyer au recyclage et au tri.
Des choses qu'on n'emmenait pas avant.
Les pots de crème, les barquettes alimentaires, les suremballages plastiques de packs d'eau minérale.
Les petits barquettes polystyrène aussi également de fast-food, de restauration,
absolument,
ce genre de choses.
Absolument, les sacs plastiques, donc vraiment l'ensemble des emballages ménagers plastiques et puis métalliques, puisqu'on pourra également envoyer au tri maintenant les capsules de café en aluminium, les bouchons de bouteilles de champagne, etc. etc. Donc cette augmentation naturelle est à peu près d'environ 30% en volume.
Et donc pour en revenir à ces déchets recyclables qui échappaient au point d'apport volontaire, on peut supposer que les bacs jaunes vont aussi simplifier puisque maintenant tout ce qui n'est pas du déchet ménager pur ou du verre va partir dans ce fameux bac jaune.
Oui, absolument. C'est comme je vous le disais, on n'arrive pas à estimer et à quantifier ouais. précisément ça, mais certains usagers, et on ne leur jette pas la pierre, mais bon, peuvent avoir la flemme, on va dire, pour parler vulgairement, d'aller jusqu'au coin de la rue, même si on a aujourd'hui un maillage extrêmement dense hein, du territoire en point d'apport volontaire. Et donc là, on estime que si vous n'avez qu'à mettre vos déchets recyclables dans le bac qui est au coin de votre couloir, ce sera sans doute plus encourageant que d'aller au coin de la rue.
Combien ça coûte à la collectivité ce nouveau système et quelles économies vont pouvoir se faire avec cette chose-là? Moi, à titre personnel, je me suis souvent demandé ce qui coûtait le plus en termes financiers, mais aussi en termes d'empreinte carbone. Des centaines de milliers de voitures souvent qui sont obligées de prendre d'y aller, comme je disais en introduction, le coffre rempli et de prendre leur voiture pour faire ne serait-ce que voilà, quelques centaines de mètres ou un kilomètre des fois, en tout cas des trajets très courts par rapport à un passage de quelques camions toutes les quinzaines. Voilà, ça a pesé aussi cette idée-là d'empreinte carbone de...
Alors, il y a effectivement deux choses quand on essaye d'évaluer une politique publique ou le coût d'une politique publique. Il y a le coût purement financier, ouais. et on va y revenir. Et puis, le coût carbone. Alors, le coût carbone, c'est encore, je dirais, un manque dans nos politiques publiques. C'est qu'il est très compliqué, assez complexe de l'évaluer précisément. Et en tant qu'élu écologiste, j'aimerais qu'on fasse aussi de gros progrès dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est extrêmement difficile à évaluer. Alors, on peut évaluer le nombre de kilomètres qui sont parcourus par nos bennes à ordures ménagères. C'est à peu près 275 000 km chaque année. Ouais. Donc ça, c'est évaluable. Après, pour le déplacement des particuliers avec leur voiture personnelle jusqu'au point d'apport volontaire le plus proche, c'est très compliqué. En revanche, concernant le coût financier, donc il y a d'une part les coûts d'investissement et ensuite les coûts de fonctionnement. Sur l'investissement à proprement parler, donc c'est un coût de 2 millions pour l'achat des bacs. Mmh. Hein, c'est donc 47 000 bacs qui sont distribués sur l'ensemble des foyers de l'agglo. C'est 108 000 habitants sur l'agglomération. Je vous le rappelle, et puis 750 000 euros de rémunération d'un prestataire privé qui s'occupe de la distribution, puisque malheureusement c'est une opération logistique d'une ampleur telle qu'on ne pouvait pas le réaliser nous-mêmes en partenariat avec les communes, même si ça a été envisagé à un moment pour optimiser nos coûts. Donc un premier investissement, alors one shot, hein, c'est une seule fois, de 2 750 000 euros, et puis après justement on a fait en sorte de fonctionner ce qu'on appelle à iso-coût, c'est-à-dire qu'on va donc alterner la collecte des déchets, des ordures ménagères résiduelles traditionnelles et la collecte des déchets recyclables, justement pour ne pas avoir à faire plus de circuits de collecte et de ramassage, et donc fonctionner quasiment à coût équivalent.
Est-ce que on recycle, du coup on en parlait, maintenant que tout va pouvoir rentrer dans le même bac, est-ce qu'on recycle aujourd'hui aussi bien le papier que les pots de yaourt, les barquettes en polystyrène? Comment ces déchets qui vont tous partir au même endroit désormais vont être traités?
Alors c'est une question extrêmement intéressante et importante. Cette opération donc de collecte en porte-à-porte et de collecte de l'ensemble des emballages ménagers plastiques, elle se fait en parallèle de la construction en banlieue de Tours, à Parcémélé, d'un nouveau centre de tri ultra moderne, ultra automatisé, ultra robotisé. C'est un investissement d'à peu près 40 millions d'euros.
Qui est porté par la région et les collectivités.
Qui est porté par un regroupement de collectivités au sein de ce qu'on appelle une USPL, une société publique locale, Tri Val-de-Loire. Donc il y a en particulier la métropole de Tours, il y a un certain nombre de communautés de communes d'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et un petit bout de la Sarthe également. Ça représente au total 900 000 habitants qui seront concernés par ce nouveau centre de tri. Et ce centre de tri, comme il est ultra moderne, il permet de gérer l'apport en ce qu'on appelle le multi-matériau, c'est-à-dire que vous n'avez plus à apporter séparément les papiers, les cartons, les plastiques, le métal. Tout est apporté
en vrac. Voilà, c'est ça, ouais. Okay.
Voilà. Et ensuite, c'est les...
Plus d'humains pour dispatcher...
Alors, en amont, en début de chaîne, tout est effectivement robotisé avec des capteurs optiques qui sont en mesure de repérer quel type de matériau, de l'orienter sur différentes chaînes. Et peut-être effectivement, en bout de chaîne, il y a quelques opérateurs humains pour enlever les derniers, ce qu'on appelle les refus de tri, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être trié ni recyclé. Mais enfin, en tout cas, voilà, on peut donc alimenter cette chaîne en multimatériaux, ce qui nous permet, nous, en amont, de collecter également en multimatériaux. Donc, vous pourrez concrètement mettre tous vos emballages, qu'ils soient papier, carton, métal ou plastique, dans le même bac. Et ensuite, nous collecterons ces bacs dans nos bennes à ordures ménagères. Alors, ce ne sont pas des bennes différentes des autres, c'est les mêmes, hein, qui sont nettoyées d'une semaine sur l'autre, mais qui, en alternance, peuvent collecter des déchets recyclables. Ils seront envoyés sur ce qu'on appelle un centre de transfert, qui, là encore, est en cours de construction à la chaussée Saint-Victor, en l'occurrence. Et puis après, des camions partiront avec ces déchets mélangés jusqu'à Tours.
Et ça, pour la communauté de communes de Blois, ça ne va vraiment commencer qu'au 1er janvier, ou déjà, quand les camions viennent récupérer les bacs d'apport volontaire, ces déchets partent déjà sur Tours.
Non, alors le centre de tri de Tours, il ne sera opérationnel que début 2024.
D'accord, ok.
Aujourd'hui, nous avons un centre de tri qui se trouve au sein de notre usine d'incinération, okay. Mais qui effectivement n'est pas équipé, ouais, pour gérer les pots de yaourt, les pots de crème, okay, les barquettes, etc. Et donc, il va y avoir malheureusement, mais on ne peut pas faire autrement, entre le 1er janvier 2023 et début 2024,
et demi, quoi,
une période de temps où il faudra qu'on envoie nos emballages recyclables à l'extérieur de la région.
Le passage en 15 aussi, ça va vouloir dire réduire sa consommation de déchets ménagers. Peut-être qu'il va y avoir aussi de la pédagogie et de l'accompagnement là-dessus auprès des habitants de l'agglomération.
Oui, absolument. Alors, je réalise, c'est d'ailleurs toujours un plaisir, un tour des communes, ouais, donc à travers différentes réunions publiques pour expliciter effectivement ce moment important du mandat en matière de gestion des déchets. Et une question qui revient souvent, alors je m'attendais, pour être tout à fait honnête, à avoir plus de plaintes,
ouais,
de réticences à ce que donc la collecte des ordures ménagères traditionnelles passe de toutes les semaines à tous les 15 jours. Mais je trouve que globalement, les gens sont plutôt compréhensifs et plutôt prêts à jouer le jeu, parce qu'ils ont compris aussi que la gestion des déchets faisait partie intégrante de la transition écologique, et qu'après l'été qu'on vient de vivre en particulier, je crois que les consciences sont plus affûtées sur les efforts qu'il faut qu'on fasse collectivement. Et donc, on a quand même quelques personnes qui se plaignent un petit peu, et en particulier il y a un point qui revient souvent, c'est celui de la consommation de crevettes. Alors je ne savais pas j'ai découvert qu'on consommait beaucoup de
d'accord,
crevettes sur le territoire d'Anglopolis, mais les gens disent, en plein été, quand on va avoir des températures de 40 degrés, comment je vais faire pour laisser mes crevettes 15 jours dans mon bac gris? Et donc, bon, on a quelques solutions à leur proposer, que ce soit, c'est le maire de Vineuil qui avait proposé de manger les crevettes uniquement la veille de la collecte,
ouais,
voilà, pour diminuer les odeurs. D'autres qui proposent de congeler les déchets de crevettes ou de crustacés, de les mettre au congélateur et de les sortir que le jour,
voilà,
de la collecte.
Mm-hmm.
Bon, malheureusement, aucune solution n'est absolument parfaite, et il y a toujours deux, trois petits cas de figure où ça peut poser des problèmes. Mais voilà, je trouve que globalement, les gens sont prêts à faire cet effort, et effectivement, tout ça s'inscrit aussi dans une perspective plus globale de prévention et de réduction des déchets. Il faut que collectivement on fasse des efforts pour réduire notre production de déchets. Et on a aussi des habitants qui nous disent, mais moi aujourd'hui j'ai un composteur dans mon jardin, je fais attention, j'achète en vrac, enfin voilà, j'ai modifié mes comportements de tous les jours, et il ne m'arrive de sortir mon bac gris qu'une fois par mois. Donc une fois qu'on aura enlevé ce qu'aujourd'hui on mettait dans la poubelle grise, donc toutes ces extensions possibles,
voilà,
de tri,
notamment les pots de yaourt, effectivement,
voilà,
les emballages de packs d'eau, de lait, etc.
Ce qui n'est pas très lourd, mais ce qui prend de
la
place.
Ça prend du volume, ouais, ouais, tout à fait.
Et puis, quand on élèvera, on en parlera peut-être juste après, quand on élèvera également les déchets alimentaires à partir de 2024, quand on les compostera dans son jardin ou en pied d'immeuble, ou peut-être à travers des bacs de compost, enfin de collecte des biodéchets au niveau des quartiers ou des micro-quartiers, ce qui là encore représente 30% aujourd'hui, hein, du poids de la poubelle grise.
D'accord.
On peut éventuellement s'en sortir tout à fait en sortant sa poubelle grise qu'une fois tous les 15 jours.
Comment a été accueilli ce changement? Voilà, vous parliez du tour des villes et de l'agglomération. Est-ce que globalement, effectivement, ce changement d'habitude est bien reçu?
Moi, je trouve déjà, la première chose qui me frappe, c'est c'est que les populations sont extrêmement concernées par la gestion des déchets. C'est-à-dire que parfois, même mes collègues qui sont sur d'autres délégations, ouais, d'autres thématiques, me font un peu les gros yeux, parce que les questions fusent et qu'on peut passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure même sur la question des déchets, qui est finalement quelque chose qui touche, hein, au quotidien de chacun d'entre nous. On est tous, malheureusement, producteurs de déchets, parfois un peu trop. Mm. Et donc, j'ai la sensation que les gens sont très sensibilisés, très, très concernés, les questions sont très pertinentes, voilà, elles fusent de tous les côtés. Et j'ai la sensation que les gens sont très, encore une fois en tant qu'élu écologiste, les gens sont très, de plus en plus inquiets, hein, on parle même d'éco-anxiété aujourd'hui, par l'évolution du climat, des atteintes à la biodiversité, etc. Et qu'ils se disent, et moi c'est le discours que j'essaye de faire passer dans ces réunions publiques, que la gestion de nos déchets, c'est un geste qu'on peut faire au quotidien, dans lequel on peut tous s'impliquer, et qui, si on additionne les dizaines de millions d'habitants dans notre pays, peut vraiment faire la différence. C'est très difficile aujourd'hui d'isoler correctement son habitation. C'est peut-être un peu compliqué pour certains de modifier nos habitudes alimentaires. On ne peut pas tous mettre une éolienne dans son jardin ou des panneaux photovoltaïques sur son toit. En revanche, bien trier ses déchets et jouer le jeu d'une gestion des déchets plus économe, ça, tout le monde peut le faire, et c'est vraiment une participation à l'effort collectif qu'on peut tous faire.
Il va donc peut-être y avoir, avec les bacs jaunes qui sont en déploiement, un courrier qui va être distribué, ou ça a peut-être déjà été fait, je ne sais plus, en disant maintenant, désormais, vous allez pouvoir trier absolument les pots de yaourt, les barquettes en polystyrène, etc. Il y a une information qui va circuler dans
absolument,
les
semaines on est, comme vous le disiez, tout à fait attentif, hein, à communiquer, à sensibiliser, à accompagner les usagers dans cette modification importante de nos modes de collecte. Donc c'est une très grosse opération logistique, comme je le disais, c'est 47 000 bacs qui sont distribués, donc ça a commencé début septembre et ça va se prolonger jusqu'au 15 décembre. Et donc le principe, la modalité de distribution, c'est que vous recevez d'abord dans votre boîte à lettres un courrier signé par le président de l'agglomération qui vous explique un petit peu ce qui va se passer. Et vous avez, donc pour ceux qui n'ont pas encore reçu ni ce courrier, ni leur bac, une petite étiquette autocollante que vous mettez sur votre boîte aux lettres et vous indiquez que vous souhaitez que le bac soit déposé soit directement devant votre domicile, ou bien remis à un voisin si jamais vous n'êtes pas là dans la journée et qu'un voisin peut s'en occuper. Si jamais vous n'avez rien indiqué, que vous n'avez pas collé cette étiquette, le prestataire repasse entre 15 et 30 jours plus tard, il ressonne chez vous. Si vous êtes là, tant mieux, il vous remet le bac directement en main propre. Si vous n'êtes toujours pas là, il y a un avis de passage qui est remis dans votre boîte aux lettres. Et à ce moment-là, vous avez une plateforme téléphonique, un numéro vert que vous appelez, vous fixez un rendez-vous, vous indiquez donc un jour, une heure où vous serez à votre domicile et le prestataire repasse pour vous remettre le bac.
Donc au 15 décembre, on en parlait hors antenne avant de prendre cette émission, au 15 décembre, tous les bacs seront distribués sur l'agglomération.
Écoutez, en tout cas, c'est l'objectif qu'on a assigné.
En tout cas, au 1er janvier, de toute façon, même si ça déroule un peu entre le 15 et le 20, peut-être, en tout cas au 1er janvier, il faudra de toute façon, on espère que tous les bacs seront évidemment distribués.
Après, vous imaginez bien que sur 47 000 bacs, on a parfois des petits bugs, des petits ajustements à faire, mais on a la chance aussi, à côté de ce prestataire externe, d'avoir un service déchets économie circulaire à l'agglomération qui est extrêmement impliqué, extrêmement compétent, et donc on essaye de régler après les choses au cas par cas. D'ailleurs, si vos auditeurs ont un problème, ils peuvent appeler le service ou communiquer avec eux par mail ou aller sur le site internet aglopolis.fr et on viendra vers eux pour trouver des solutions au cas par cas.
Ce changement de collecte, de tri des déchets, c'est la première étape vers d'autres obligations, puisque effectivement vous l'évoquiez, il va y avoir d'autres étapes, notamment le compostage et la gestion des déchets ménagers qui va aussi entrer en jeu, alors à plus moyen terme on va dire, mais ça arrive aussi, j'imagine que vous vous y préparez déjà.
C'est effectivement le deuxième grand rendez-vous de ce mandat. Au 1er janvier 2024, il ne sera théoriquement plus autorisé de mettre ces biodéchets, ces déchets alimentaires, dans la poubelle grise. Et donc nous, notre responsabilité, alors on ne va pas mettre un gendarme ou un policier ou un agent de l'agglomération derrière chaque foyer pour s'assurer qu'il ne met pas ses épluchures de carottes dans sa poubelle grise. Mais notre responsabilité en tant que collectivité, c'est de fournir aux usagers des outils pour gérer de manière alternative ces biodéchets. Et donc on a commencé depuis le 1er janvier de cette année à distribuer gratuitement à tous les foyers de l'agglomération qui en font la demande un composteur.
Est-ce que vous savez combien de composteurs ont déjà été donnés dans l'année là, du coup?
Je crois qu'on a calculé, alors entre ce qui avait déjà été distribué par le passé et ce qu'on a distribué depuis le début de l'année, qu'à peu près 30% des foyers de l'agglo pratiquent déjà le compostage. Ce qui est déjà pas mal,
c'est
mais bon,
bien.
Il reste du chemin à parcourir. Ouais. Donc je crois que nos composteurs partent, c'est plusieurs centaines de composteurs qui sont sont distribués chaque semaine. Hein, donc c'est la gratuité de l'équipement, je pense, est assez motivante pour les habitants. Donc c'est les composteurs collectifs pour ceux qui ont la chance d'avoir un bout de jardin et de le mettre directement dans leur jardin, même si on a la chance d'être une agglomération assez rurale, hein, dans sa composition. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui vivent en habitat individuel et qui ont un bout de terrain. On essaye d'encourager de développer aussi le compostage collectif en pied d'immeuble, en particulier sur les zones d'habitat collectif sur Blois. Et donc là, on accompagne vraiment, on ne se contente pas de mettre à disposition un composteur, mais on a au sein de notre équipe une maîtresse composteur qui peut assurer des formations et une mise en place, voilà, et qui s'assure que tout cela est bien suivi dans le temps, parce qu'il faut qu'il y ait des habitants, hein, d'une barre d'immeuble par exemple, qui s'engagent à suivre un peu, parce qu'ensuite le compost, il faut l'alimenter, il faut le remuer régulièrement, enfin bon, il ne s'agit pas de le mettre en place et de l'oublier ensuite.
Dans ces habitats collectifs, on compte un peu sur l'effet boule de neige que peut avoir, voilà, des habitants, on va dire, d'une barre d'immeuble plus concernée que d'autres.
Il faut absolument des influenceurs, je dirais, compostage, des têtes de pont, des gens, ouais, qui prennent vraiment ce sujet à bras le corps, qui soient eux-mêmes ultra convaincus et qui ensuite convainquent leurs voisins de jouer le jeu. Après, se développe, en particulier dans les quartiers nord de Blois, pas mal de jardins partagés. Donc voilà, je crois que vraiment les gens sont en train d'évoluer très très vite ces dernières années, ces derniers mois, et que toutes ces thématiques écologistes commencent à gagner du terrain. On accompagne aussi les gros producteurs de biodéchets que sont les cantines de restauration collective, les écoles, etc. etc. Les EHPAD à jouer le jeu du compostage. Et puis on a bien conscience que tout cela ne suffira pas à capter l'intégralité du gisement des biodéchets, parce que c'est quand même des tonnages assez importants. Et donc on réfléchit, et on sera prêt le 1er janvier 2024 à d'autres solutions complémentaires. Et donc on sait que des communes, j'étais récemment à la Motte Beuvron par exemple, expérimentent des systèmes de containers en micro-quartier ou en pâté de maison, etc. Et à ce moment-là, vous allez, alors il faut se déplacer là pour le coup avec son petit seau rempli de biodéchets jusqu'au point d'apport biodéchets le plus proche, avec un système de badge de contrôle d'accès. Et voilà, mais en tout cas, la collectivité sera prête en 2024.
Voilà. J'allais y venir, notamment sur cet aspect-là. Ici à Studio EZEF, dans nos locaux, on est hébergé avec d'autres associations, on ne dispose pas de bac de compost. Donc ça, par exemple, ça pourrait être une idée pour, voilà, plusieurs petites structures qui sont au sein d'un même bâtiment, d'avoir soit au pied de sa structure effectivement un bac, soit d'avoir pas trop loin un bac à compost qui puisse être mis à disposition pour ces petites structures, les entreprises, vous en parliez, ce genre de choses.
Oui, il faut vraiment faire feu de tout bois, et il faut aussi bien traiter les solutions individuelles que les approches plus collectives. Et donc on fera en sorte d'être prêt en 2024, et puis après donc offrir aux usagers, qu'ils soient particuliers ou associatifs comme vous, des solutions de collecte, c'est une chose, mais après il faut bien faire quelque chose de ces biodéchets une fois qu'on les aura collectés. Et donc il y a d'une part aujourd'hui une plateforme de compostage qui est gérée par le syndicat Valeco, qui se trouve à Fossé, mais qui est un peu saturée parce qu'elle gère déjà tous les déchets verts des communes, enfin des particuliers collectés en déchetterie et des communes de l'agglo. Et on réfléchit aussi à développer à partir de ces biodéchets ce qu'on appelle la méthanisation, c'est-à-dire la production de biogaz à partir de déchets alimentaires qui peuvent éventuellement être mélangés avec des bouts de stations d'épuration également. Et le double intérêt de ce biogaz, d'une part, c'est qu'il est quand même moins impactant en termes d'effet de gaz à effet de serre que le gaz traditionnel, et puis il nous permet d'avancer vers l'autonomie énergétique du territoire, c'est-à-dire de produire notre énergie directement sur le territoire. Et on sait que, connaissant la situation géopolitique du moment, que ça n'est pas anodin du tout.
Effectivement. Quels sont les autres projets, les autres constructions en cours au niveau de la gestion des déchets? Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en discussion, en construction au sein d'Aglopolis?
Alors depuis le début de ce mandat, ma délégation a évolué dans son nom. C'était la gestion des déchets jusqu'à présent et c'est devenu gestion des déchets et économie circulaire. Et donc maintenant, on essaye plutôt de raisonner sous le chapeau de ce terme d'économie circulaire qui ne parle peut-être pas à tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui et depuis des siècles, on évolue au sein de ce qu'on appelle une économie linéaire, c'est-à-dire que de manière très schématique, on extrait des matériaux, des ressources, on fabrique des objets, on les distribue, on les vend, on les consomme et on les jette. Voilà. Et le problème, c'est qu'en amont, on impacte considérablement les ressources de la planète à tel point que maintenant, il nous faudrait deux ou trois planètes si on voulait continuer sur ce même rythme. Et donc ça, les gens comprennent bien que ça devient impossible. Et puis, en bout de chaîne, on se retrouve avec des monceaux de déchets dont on ne sait plus quoi faire. Alors jusqu'à présent, on les enfouissait, ce qui n'était pas terrible. Aujourd'hui, on arrive quand même à les incinérer, à en faire une valorisation énergétique, ce qui est le cas à Blois, puisqu'on fournit de la chaleur à l'équivalent de 8000 logements et de l'eau chaude sanitaire.
Mais il faut rappeler que ce qui est brûlé, ça ne part pas juste en fumée dans le ciel.
Absolument. Donc il faut qu'on sorte de ce système qui est très mauvais pour tout le monde.
Progresser.
Et donc, c'est développé depuis quelques années ce concept d'économie circulaire. Et l'idée, c'est d'arriver déjà à diminuer la quantité de d'emballage à travers ce qu'on appelle l'éco-conception. Malheureusement, on s'aperçoit que les industriels ne vont pas aussi vite qu'on pourrait le souhaiter. Et donc, on a encore des emballages, des sur-emballages. Alors, il y a la vente en vrac qui commence un petit peu à se démocratiser, mais là encore pas suffisamment vite. Et puis, on essaye au maximum de réutiliser, recycler, réemployer, donc créer des boucles positive pour essayer de continuer à consommer, puisque malheureusement le système veut ça, mais en extrayant de moins en moins de matières premières. Et donc on a sur le territoire un bel écosystème d'acteurs du réemploi qu'on essaye donc d'accompagner, d'encourager, de soutenir. On a en particulier une très belle recyclerie qui s'appelle Les Bonnes Manières, qui est avenue Wilson à Blois-Vienne, avec qui on travaille, qui développe ce qu'on appelle des caissons de réemploi. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez sur certaines déchetteries à Chouzy-sur-Cisse et à la chaussée Saint-Victor en particulier, et que vous étiez parti pour jeter, par exemple, du vieux mobilier ou des vieux objets directement dans les bennes, vous avez un animateur des Bonnes Manières qui vous intercepte et qui vous propose plutôt de récupérer ces objets pour les revendre à d'autres. Vous avez bien évidemment une structure historique comme Emmaüs. Vous avez une recyclerie informatique qui s'appelle ADEPA, qui récupère du matériel informatique, qui le retape et qui peut par exemple le revendre à des étudiants dont on sait pendant le confinement qu'ils avaient besoin de matériel informatique pas cher.
Ouais,
nous avons un partenaire qui s'appelle Gervais Legras, qui a monté une petite société qui s'appelle Cossival et qui avec son vélo électrique fait le tour des commerces de bouche, des restaurateurs et des marchés alimentaires de Blois pour récupérer directement leurs biodéchets et ensuite les emmener en compostage. Donc on a, j'en oublie mais il y en a plein d'autres. On a un atelier qui s'appelle Talents Croisés également, qui est une association de couturières qui aide les gens à réparer et à redesigner leurs vêtements plutôt que de les jeter aussi. Donc voilà, cette dimension réemploi, réutilisation, elle est extrêmement importante et on essaye de la développer. Et d'ailleurs, on a pour projet, là, d'ici la fin du mandat, de créer sur le territoire blaisois une très grosse recyclerie, ressourcerie, matériothèque, etc. Donc il sera vraiment un équipement important, structurant de plusieurs millions d'euros. Alors ce sera d'une part une évolution de notre déchetterie Blois-Nord.
D'accord.
Qui pour ceux qui la connaissent est quand même maintenant assez petite, assez saturée, donc ça il faut qu'on la déplace.
Ouais.
Donc on va la déplacer sur une autre parcelle et on en profite donc pour créer ce lieu qui sera aussi un lieu d'hébergement de ces acteurs-là, d'ateliers, de sensibilisation à toutes ces thématiques. J'avais oublié Vélo 41 par exemple, qui fait un très
Bien
gros
sûr,
boulot
effectivement.
Sur non seulement la sensibilisation à l'utilisation du vélo, mais aussi à la réparation de vélos pour pouvoir là encore revendre des vélos pas chers à ceux qui pourraient avoir envie de se déplacer comme ça. J'oubliais également les entreprises parce que c'est important.
Ouais,
donc on a une démarche qu'on appelle 2IT, écologie industrielle territoriale. territoriale. Et donc l'idée, c'est que les entreprises bien se regroupent, discutent, échangent pour pouvoir mutualiser des ressources. Alors ça peut être des places de parking, des cantines, des choses comme ça. Et surtout, fassent en sorte que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Il y a de plus en plus d'échanges qui peuvent se faire comme ça. Donc des entreprises de logistique qui utilisent des palettes, par exemple, qui peuvent en faire don à d'autres qui pourraient s'en servir pour faire des meubles ou des choses comme ça. Voilà, il y a de plus en plus d'entreprises qui coopèrent pour toutes ensemble et collectivement diminuer leur impact sur la consommation de matières premières.
On a parlé des particuliers beaucoup. J'imagine que les entreprises aussi sont concernées par ces bacs jaunes. Alors peut-être sur des formats différents. Comment ça se passe pour les entreprises, les grandes structures ?
Alors on a effectivement, on travaille en direct avec le tissu économique et avec les entreprises toutes petites ou très grandes d'ailleurs. Et on distribue également des bacs jaunes à celles et ceux qui en font la demande. Après, on a ce qu'on appelle un système de redevance spéciale, c'est-à-dire que les usagers, eux, payent ce qu'on appelle la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans le cadre de leur taxe foncière. Mmh. Et les entreprises, elles, passent plutôt par un système de redevance spéciale, c'est-à-dire qu'en fonction des volumes collectés, elles nous règlent directement.
Mais il y a une vraie communication et une entente sur ces sujets-là aussi de la part des entreprises sur le Blésois.
Oui, là encore, alors moi je suis plutôt d'un naturel optimiste, mais c'est vrai qu'on sent une vraie prise de conscience de la part des entreprises. Alors il se trouve que je m'occupe également dans ma délégation de l'enseignement supérieur, donc du suivi et de l'accompagnement et du soutien de nos établissements d'enseignement supérieur. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie prise de conscience. Les étudiants, et ça on le voit de plus en plus sur Internet, il y a des vidéos qui circulent dans des remises de diplômes.
Cette génération est particulièrement efficace et concernée.
Veut du sens et touchée, et veut des jobs qui aient véritablement du sens et le font savoir d'ailleurs de manière très, très, très forte. Et les entreprises qui ne sont pas stupides ont bien compris qu'on ne pouvait plus recruter des profils de valeur si on n'était pas capable de leur offrir des jobs qui aient du sens. Donc voilà, ces gens-là sont en train de se rencontrer. Nous, on le voit très bien au sein de l'INSA, par exemple, notre école d'ingénieurs. Il y a des engagements aussi bien de la part des étudiants que des entreprises qui sont en train d'évoluer. Et puis, on rencontre régulièrement les organisations professionnelles, que ce soit le MEDEF, la CPME, etc. Et tous sont en train de prendre un virage extrêmement important, de réaliser des audits et de mettre en place des plans d'action qu'en tant que collectivité, bien évidemment, on encourage et on soutient.
Merci. Yann Lafont, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, d'autres informations qu'on n'aurait pas évoquées dans cette
émission ? Oui, juste une toute petite chose. Allez-y. Rappelez que, également d'ici la fin de l'année, chaque foyer de l'agglo recevra un kit de communication dans sa boîte aux lettres avec un guide du tri très précis, avec un petit magnet qui se colle sur le frigo et qui permet de bien savoir ce qui se met donc dans le bac jaune ou ce qui ne se met toujours pas dans le bac jaune, puisque si vous avez des vieux jouets en plastique, si vous avez du mobilier de jardin, etc., ça ne se met pas dans le bac jaune. On parle bien d'emballage ménager, exclusivement. Et puis vous aurez également un calendrier de collecte qui vous indiquera semaine par semaine quelle est la collecte du gris, quelle est la collecte du jaune. Et ce qu'il faut savoir, c'est une dernière chose, renseignez-vous bien auprès de votre mairie ou sur le site Agglopolis ou dans vos bulletins municipaux par exemple, puisque on a été obligé de réorganiser nos circuits de collecte. Il est possible que votre jour de collecte change.
On n'en a pas parlé,
si
effectivement.
Si vous étiez habitué à être
mercredi,
collecté le mardi par
jeudi,
exemple, c'est susceptible de changer. Donc pardonnez-nous par avance pour la petite gêne occasionnée, mais on ne doute pas que vous vous adaptiez aussi bien que vous allez vous adapter à votre nouveau bac jaune, pour qu'encore une fois chacun puisse se saisir de ces outils pour accompagner cette transformation écologique nécessaire.
Eh bien, donc de nouvelles habitudes à prendre, mais le tout bien accompagné effectivement par les services d'Agglopolis. Merci Yann Lafont.
Merci beaucoup.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de La Chose Commune. Salut.